Et toi, c'est qui ta doula?
Et toi, c'est qui ta doula?
Et toi, c'est qui ta doula?
Une émission réalisée par Maïté Poza.
Nos vies sont jalonnées de petits et grands événements dont nous ne parlons pas toujours facilement. Désir de grossesse ou non, maternité, parentalité, deuil, cycle, sexualité, nous le ferons ici, sans détour, avec délicatesse et respect. Dans ces émissions et avec mes invités, nous apportons des réflexions, des informations, des astuces, des outils concrets, des bonnes ondes et des ressources locales. Bah ouais, quel riche réseau en Haute-Loire! Sur fond de confidences, sans tabou et loin des clichés, libérons la parole. Quel que soit votre chemin de vie, cet espace sera le vôtre.
Et toi, c'est qui ta doula?
Et toi, c'est qui ta doula?
Et toi, c'est qui ta doula?
Je suis Maïté Poza, je suis doula et j'accompagne toutes les femmes dans leurs différentes phases de vie et notamment leur maternité. Je soutiens chaque femme, chacune, où elle en est et comme elle dit, selon les besoins et les spécificités. Je suis aussi Tanadoula et j'accompagne les personnes en deuil et en fin de vie. Aujourd'hui, j'accueille Amandine Lagarde, doula, dans le plateau Ardéchois et en Haute-Loire. Elle est notamment connue pour ses tentes rouges qu'elle anime au Petit Café, au Puy-en-Velay, depuis quelques années. Nous la retrouvons sur Facebook et sur son site internet, autour d'une naissance. Alors, j'ai connu Amandine après la naissance de mon second enfant, et pour lui demander de faire, avec sa binôme, un soin rebozo, qui est un rituel de fermeture selon une tradition mexicaine. Nous en reparlerons lors d'une prochaine émission. Puis Amandine a été une de mes formatrices au Centre Galantis, qui est un centre de formation au métier de doula notamment. Depuis, nous sommes devenus collègues, binômes et amis. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir Amandine pour cette première émission et pour parler du métier de doula. Ensemble et pour cet épisode, nous allons découvrir c'est quoi le métier de doula et surtout à qui ça s'adresse et dans quelles circonstances. Bonjour Amandine, merci de te prêter au jeu de l'interview.
Bonjour Maïté, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très très heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
Oui, est-ce que tu viens te présenter?
Oui, avec plaisir. Alors moi, comme toi, je suis doula. Plus précisément, moi je me définis comme, je définis mon activité comme accompagnante à la naissance et à la parentalité. C'est ce qui me semble représenter le mieux mes différentes casquettes. Donc, pour exposer ça brièvement, j'accorde une large part à l'accompagnement des femmes, des couples et des familles de façon individuelle, plus particulièrement pendant la période de la grossesse, de la naissance et du post-natal, d'où ce nom autour d'une naissance, mais aussi pour toutes les autres périodes de la vie où les familles pourraient avoir besoin d'un soutien, d'une écoute bienveillante et donc d'une présence. Je pense que je peux leur apporter. À côté de ça, il y a un volet parentalité qui prend de plus en plus de place dans mon activité. Je suis devenue récemment animatrice et coordinatrice des actions de parentalité sur la communauté de communes du Haut-Allier, donc en Lozère, tout près de la Haute-Loire. Puisque moi, comme tu l'as dit, je vis en Ardèche et j'exerce mon activité sur ces trois départements, la Haute-Loire, l'Ardèche et la Lozère. Comme tu l'as dit aussi, je suis formatrice aujourd'hui dans ce centre Galantis, organisme de formation au métier de l'accompagnement et du lien. Là encore, une définition assez large qu'on a voulu au-delà du métier de doula, qui est souvent vu comme strictement un accompagnement de la période périnatale.
Voilà. Et tu animes des tentes rouges?
J'anime aussi des tentes rouges au Petit Café au Puy-en-Velay. Il y en aura à nouveau cette année. Et puis occasionnellement en Lozère et en Ardèche aussi, mais c'est pas ce qui t'intéresse aujourd'hui. Je propose aussi des célébrations de fin de grossesse, des soins rebozo dont tu as parlé et potentiellement d'autres rituels sur demande selon les besoins des parents et des femmes surtout.
Des tentes rouges et aussi des tentes roses, tu peux proposer pour les adolescents.
Alors les tentes roses, ce sont en effet une version des tentes rouges réservées aux adolescentes et ça pourrait être dans les projets pour 2022. Je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui parce que c'est qu'à l'état de projet.
Les tentes rouges, les tentes roses, nous aurons l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission qui sera consacrée aux rituels et aux différents événements, célébrations qu'on peut faire tout au long de la vie. Nous en reparlerons aussi après, mais tu es autrice. Tu es en train d'écrire et finaliser un bouquin.
Oui, une de mes consoeurs, Doula, donc Yannick Revel et moi-même, on a coécrit récemment un livre sur le thème du devenir mère et il sortira en mars. Alors, bah, pareil, tout ça, c'est des choses qui sont en cours de construction. J'avoue que je débute l'année un petit peu sur les chapeaux de roue sans avoir réussi à me projeter très, très loin. Mais donc, ce livre qui aborde le devenir mère sous le plus d'angle possible, hein, puisqu'on a voulu commencer dès la grossesse et en balayant largement les aspects familiaux, émotionnels, psychiques, tout ce qui se jouait dans cette étape de vie. Donc, il va sortir en mars et il se pourrait qu'il y ait quelques événements organisés en Haute-Loire pour présenter le livre aux auditeurs intéressés. En sachant qu'une des demandes qui nous avait été faite dès le début par la maison d'édition, donc Larousse, c'était l'envie d'avoir notre regard de doula, donc d'accompagnante, tout au long de ce livre. Et c'est quelque chose qu'on a, je l'espère, réussi à faire, notamment en accordant une large part aux témoignages de femmes et à la parole des femmes à travers des témoignages qui ponctuent le livre. Puis aussi des astuces, des petites choses techniques, des petits tips pour le quotidien.
Ouais, j'ai hâte de découvrir ton livre et nous en reparlerons aussi dans cette émission pour dire la sortie et les événements qui peuvent être faits autour. Les références seront mises aussi sur nos sites internet respectifs et puis sur le site de FM43.
Mais en fait, c'est quoi une doula ?
En tout cas, rien de sorcier, rien de sorcière. Et je me permets de lire la définition du mot doula, qui est un mot originaire du grec ancien et est utilisé aujourd'hui dans le domaine donc, de la périnatalité pour nommer une femme qui a pour vocation d'aider une autre femme et son entourage pendant la grossesse, l'accouchement, la période postnatale, grâce à son expérience et sa formation. La doula est à l'écoute de la femme accompagnée dans ses désirs, ses besoins et la suit dans ses choix. Elle propose un accompagnement dans la continuité, une relation de confiance, de complicité, d'intimité de femme à femme. La doula accompagne, soutient, entoure les femmes seules, ou en couple, les couples et les proches. Elle incarne la figure féminine qui se tenait autrefois auprès de la femme qui met au monde son bébé et aux côtés de la sage-femme. Alors elle n'exerce pas le métier de sage-femme, elle s'engage dans la confidentialité et se soumet au secret professionnel.
Pour moi, une doula, c'est une personne qui accompagne les gens, les femmes enceintes, pour leur accouchement ou... pour tout le long de la grossesse. Et voilà.
Alors, selon l'étude la plus souvent citée, hein, la présence d'une doula lors de l'accouchement, c'est moins 25% du temps de travail, moins 50% de césarienne, moins 40% de forceps, moins 60% de demande de péridurale, selon donc une étude de 2002, bon, 20 ans déjà. Voilà, toutes les références de cette étude sera sur le site. Pour ma part, c'est en 2019, donc après la naissance de mon second enfant, que j'ai découvert le métier de doula, j'expliquais tout à l'heure. Et pendant toute la grossesse, j'avais récolté plein d'informations, j'avais lu beaucoup de livres, j'avais aussi même suivi des formations en ligne. J'avais l'impression d'être prête pour cette grossesse, pour cet accouchement. Et ça s'est bien passé, j'ai eu l'accouchement de... Je rêvais, en tout cas, ça s'est passé comme je voulais. C'est après où je me suis dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, à l'arrivée de bébé, les premiers mois, voire même la première année, malgré tout ce que j'avais accumulé, je me suis retrouvée bien seule. Et ça a été pour moi important de trouver un espace refuge. C'est là où je t'ai découvert, Amandine, au travers le soin Rebozo que tu proposes. Et puis, de me dire « Mais... pour réparer un peu ce qui m'avait manqué pendant la grossesse, j'aimerais mettre en place un service de soutien aux femmes dans ce qu'elles peuvent vivre, notamment après la naissance. » Et puis le métier de doula donc, m'a ouvert les portes sur toutes les dimensions que l'accompagnement permettait, dans, que ce soit au niveau du désir d'enfant, les parcours, et puis bien après. Ça a été quand même un grand chamboulement. et malgré la préparation, entre guillemets, ou en tout cas les idées qu'on peut s'en faire, il peut y encore avoir des moments de doute, il peut y aussi avoir des moments où on peut se sentir contrarié dans les différentes injonctions, dans ce que les uns et les autres peuvent dire, et le lendemain ils disent autre chose, et même soi-même. Donc je me suis formée, et me voilà donc doula aussi en Haute-Loire. Alors quand j'ai annoncé à mes proches que je quittais mon poste de salariée de directrice de réseau de santé pour devenir doula, j'ai bien vu dans leur regard plein d'interrogations sur leur visage. Et toi, Amandine, comment tu as connu le métier de doula et comment t'en es venue à devenir doula ?
Alors moi, de mon côté, ça remonte à 2008, où j'ai donné naissance à ma première fille. Donc j'ai vécu une grossesse vraiment sur un petit nuage, à tout point de vue, puisque aussi bien médicalement que émotionnellement, ça s'est très très bien passé. Mais finalement, j'étais tellement sur un petit nuage que je n'étais pas tellement ancrée avec la réalité. Et l'accouchement a été extrêmement compliqué. J'ai subi des violences obstétricales sans savoir à l'époque que ça existait ou que ça portait un nom. Ça a été une grosse lac, cet accouchement. Et ça a été la révélation aussi que dans mon parcours, il avait manqué quelque chose. Pourtant, j'avais tout fait comme il faut. J'avais fait un suivi médical après la maternité. Ce n'était pas une très grosse maternité parce que je n'avais pas voulu choisir une usine à bébé, entre guillemets. J'avais fait ma préparation, enfin, j'avais l'impression d'avoir été la bonne élève qui fait tout comme il faut et puis qui finalement n'est pas du tout préparée à ce qui se passe. Et là, il a été très clair pour moi qu'il y avait eu un manque, le manque d'une personne de confiance qui ne se situe pas dans le médical mais dans une autre sphère, et qui aurait été simplement la personne à qui j'aurais pu téléphoner quand ça n'allait pas ce jour de l'accouchement, et qui aurait pu avoir un regard neutre, extérieur, bienveillant. Donc voilà, grosse révélation à ce moment-là, mais je ne connaissais pas du tout les doulas, la visibilité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui non plus. Donc j'ai commencé à creuser sur le net cette question de l'accompagnement des femmes, au sens large, à tous les moments de la vie. Ça a correspondu aussi au moment où il y a pas mal de mes amies qui sont devenues mères pour la première fois. Et pour chacune d'entre elles, j'arrivais à identifier, à pointer le fait qu'à un moment ou à un autre, il y avait eu ce manque. Parfois, c'était pendant la grossesse, parce qu'elles étaient dans une grossesse pathologique et que, pareil, médicalement, elles étaient très, très bien suivies. Mais il manquait quelque chose d'humain à côté pour tenir la main, pour parler d'autre chose, pour sortir un peu de la bulle de pathologie. Pour d'autres, c'était pour le moment de l'accouchement, comme moi. Ou pour d'autres, c'était pendant la période postnatale, un petit peu comme tu le décris, Maïté. Donc, ça me fait sourire d'entendre ton témoignage là-dessus à nouveau. Mais en réalité, pour chacune des femmes autour de moi, ce manque, il était là à un moment donné. Et ça m'a enlevé un peu l'idée que le problème venait de moi, que c'était moi qui avais toujours besoin qu'on m'accompagne parce que j'avais des besoins surdimensionnés. En fait, non, pas du tout. Ça m'a permis de réaliser que ces besoins-là étaient normaux pour toute femme et même pour tout couple, toute famille qui traverse une étape de vie aussi potentiellement chamboulante que l'arrivée d'un bébé. Alors, de fil en aiguille, j'ai fini par tomber sur le site Doula de France. Et là, ça a été un wow immédiat. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une doula qui était proche de chez moi à ce moment-là, où moi donc je vivais à Marseille. Et puis j'ai assisté pour la première fois à un événement annuel qui s'appelle les Journées des Doulas, donc qui est organisé par cette association une fois par an pour réunir des doulas, des futurs doulas, mais aussi des professionnels d'autres professionnels de la périnatalité. Et puis, je crois que ce jour-là, ma décision était prise, que c'était ça que j'allais faire quand je serai grande. Et donc, suite à ça, je me suis formée et j'ai commencé à exercer ce métier.
Et ça, c'était en quelle année ?
Alors, la naissance de ma fille en 2008, ma prise de connaissance que les doulas existaient en 2009, en 2010, les journées des doulas. En 2010, j'ai aussi commencé à accompagner de façon très informelle via des associations, via du bouche à oreille et des personnes qui me connaissaient par des amis interposés, mais de façon très informelle. Et à ce moment-là, je ne voulais pas du tout m'appeler doula parce que pour moi, c'était hyper important. Donc le métier n'étant pas reconnu, on en reparlera tout à l'heure, n'importe qui aujourd'hui pourrait décider d'être doula. Mais moi, ça me tenait vraiment énormément à cœur de suivre un parcours de formation long avant de revendiquer ce, ce terme parce que je trouve que c'est un métier précieux et qui veut dire quelque chose. Donc ça a commencé en 2010. Un bébé surprise s'est invité et m'a fait un petit peu reculer le moment de la formation que j'ai pu faire en 2013 auprès de l'Institut de formation Doula de France. Voilà.
Ok. Une formation longue, tu disais, et aussi en présentiel, qui, quand même, un des outils de la formation, c'est l'écoute, la relation. Donc, il peut. En tout cas, moi, je sais que c'était important de pouvoir suivre une formation en présence d'autres personnes, de pouvoir partager, ne fût-ce que mon expérience, mes aspirations, mes attentes au métier de doula.
Oui, tout à fait. Une formation longue, donc sur une durée d'une année, à raison des week-ends de 2 à 3 jours par mois. Et en présentiel, alors à l'époque, la question se posait moins qu'aujourd'hui. Pourtant, 2013, c'était pas si loin. Mais aujourd'hui, il existe énormément de formations de doula ou des métiers de l'accompagnement qui se font à distance. Je sais que ça peut correspondre aux besoins de certaines femmes, mais moi, la question s'était posée, clairement, le présentiel pour découvrir un métier qui est surtout un métier de savoir-être, avec une grande place à la relation d'aide, à l'écoute active, à l'approche centrée sur la personne, aussi à tout ce qui est subtil, à la posture du corps, au non-verbal et à tout ça. Oui, pour moi, présentiel, clairement, c'était un élément important. C'est aussi pour ça que lors de la création du Centre Galantis, l'organisme de formation pour lequel je travaille aujourd'hui, la question ne s'est pas posée une seule seconde. Pour nous, c'était du présent.
En France, pour le moment, il y a donc l'Institut de formation des doulas.
Doula de France. L'Institut de formation Doula de France, qui est à bien différencier de l'association Doula de France. Donc, deux associations différentes avec des objectifs différents.
Et le Centre Galantis comme organisme de formation. Après, les autres formations qu'on peut retrouver, notamment en France, elles sont accessibles en ligne, c'est ça ?
Il y a aussi le Centre Envol et Matrescence, qui est le plus proche des deux que tu viens de citer, qui propose aussi un cursus en présentiel et aussi un cursus long d'une année. L'avantage de ces trois choix de formation, c'est que pour les personnes qui le souhaitent, ça leur permet ensuite d'adhérer à l'association Doula de France et d'apparaître sur l'annuaire de l'association. Et ce sont aussi des formations qui ont pour objectif de couvrir vraiment tous les besoins d'une femme qui se destine à devenir doula, donc avec un focus important sur la posture, sur la relation d'aide. Je ne dis pas du tout que les autres formations courtes ne le font pas, mais donc les formations longues ont cette envie de vraiment couvrir toute la palette des compétences et à la fin, il ne manque rien. Les formations courtes sont plutôt à voir comme des puzzles pour celles qui auraient envie d'aller, qui ont déjà certaines compétences, une certaine expérience et qui ont envie de venir compléter avec d'autres.
Et ces formations se font un peu partout en France. En tout cas, il y a la volonté pour le Centre Galantis de pouvoir proposer des formations. Moi, je l'ai suivi à Lyon, mais il y en a à Paris.
Strasbourg, actuellement, il y a Avignon. Et puis, il y aura sûrement une autre ville. On ne sait pas encore quand, parce qu'on est un peu débordé par la demande. Mais enfin, on ne sait pas encore voilà, quand, où. Mais voilà.
Pour cette émission, et toi, c'est qui ta doula ? Je suis avec ma collègue Amandine Lagarde, doula sur le plateau Ardéchois et en Haute-Loire. Et pour nous parler de l'Association des doulas de France, que nous avons déjà plusieurs fois mentionnée, voici l'interview de Hélène Roch, qui est vice-présidente de l'Association des doulas de France.
Bonjour à tous, je suis Hélène et je vais vous parler de l'Association Doulas de France. Doulas de France est une association professionnelle qui existe depuis 2006. Son rôle est multiple. L'association propose différents services aux doulas membres et propose aux parents l'accompagnement d'une doula ayant rempli les conditions d'admission de l'association. Dans un premier temps, concernant les parents, les doulas de France ont pour vocation de soutenir et informer les femmes et les parents dans l'exercice de leur parentalité et dans le respect de leurs choix et de leur culture. Elles favorisent la relation mère-enfant et sensibilisent au respect des besoins fondamentaux de l'enfant et de la femme. Elles encouragent les processus physiologiques et notamment l'allaitement maternel. Elles préviennent la difficulté maternelle, la dépression postnatale, la maltraitance et leurs impacts sur les familles. Elle soutient et crée des réseaux dans le domaine de l'accompagnement à la naissance et étend la transmission de femme à femme. Les doulas membres s'engagent à respecter notre charte éthique, mûrement réfléchie et repensée au fil des années, et ont été également formés dans l'un des centres proposant un cursus complet validé par l'association, comprenant un solide socle de connaissances autour de la périnatalité, ainsi qu'une formation à l'éthique, au positionnement et au cadre légal d'exercice. Pour les services rendus aux doulas par l'association, nous proposons un annuaire de référence pour les parents, sous condition de formation donc, ainsi qu'un marrainage qui permet aux jeunes doulas d'être accompagnés et supervisés sur une durée variable. Nous proposons depuis l'année dernière des lives sur les réseaux sociaux, à destination du public, mais également des doulas qui abordent différents thèmes professionnels ou pratiques. Les doulas de notre association et les parents peuvent également se tourner vers notre aide juridique en cas de litige. Depuis plusieurs années, l'association organise une rencontre annuelle, les Journées des doulas, ouverte à toutes les doulas, membres ou non, mais aussi au public. Ces journées proposent des conférences, des stands, des rencontres et des spectacles autour du thème de l'accompagnement et de la périnatalité. Au sein de l'association, une vingtaine de bénévoles actives se relaient lors de deux réunions mensuelles pour discuter des grands thèmes liés à la vie de l'association, mais également au contexte social, à l'amélioration constante de l'accompagnement des parents et à la reconnaissance du métier, notamment dans les médias et auprès des institutions. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez adhérer en tant que particulier ou en tant que doula en vous rendant sur notre site doula.info, doula avec un S, doula.info, qui vous délivrera également toutes les informations que je n'ai pas pu développer ici. C'était Hélène, doula dans le Vaucluse, coprésidente de l'association Doula de France. Bonne fin d'écoute à vous et merci à Maïté.
Merci à toi Hélène. Et ouais, c'est une chanson de Morane, toutes les mamas. Et toi, c'est qui ta doula ? Je suis avec ma collègue Amandine Lagarde, doula sur le plateau Ardéchois et Orange-Loire. Amandine, c'est un métier émergent, le métier de doula.
Voilà, toi, tu parles des années 2008-2013, même si Doula de France a été créée un peu avant. C'est un métier nouveau. Qu'est-ce qu'il en a en France au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est un métier connu, reconnu ?
Alors oui et non. Le métier de doula, il est quand même de plus en plus connu du grand public en France. L'évolution depuis 10 ans, donc celle que moi j'ai pu voir, elle est quand même assez spectaculaire. Malgré cela, on n'est pas du tout au niveau, entre guillemets, de ce qu'on peut voir aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où faire appel à une doula pour sa grossesse, son accouchement ou la période postnatale, c'est vraiment la routine. En France, ça reste quand même réservé aux parents qui ont pu avoir l'information. Même si cette information, elle diffuse de plus en plus dans les médias grand public, notamment il y a eu pas mal d'articles dans les journaux, il y a eu quelques émissions à la télévision, etc. Moi, je rencontre encore beaucoup de parents, beaucoup de mères qui me disent « Ah bah si j'avais su, j'aurais fait appel à une doula. » Mais bon, c'est trop tard, le bébé, il a 6 mois, 1 an. C'est trop tard, en même temps, non, parce qu'il n'est jamais trop tard pour aller justement recevoir de l'écoute et revisiter une expérience qu'elle ait été très positive ou moins. Il n'est jamais, voilà, quoi qu'il arrive, il n'est jamais trop tard. J'en profite pour ce message-là. Et puis, pour ce qui est du côté reconnu, donc un peu plus le côté officiel, je crois que je l'ai déjà dit précédemment, le métier de doula n'est pas officiellement reconnu, c'est-à-dire qu'il n'est pas encadré de façon légale en tant que tel. Après, il y a l'association Doula de France qui œuvre depuis sa création, donc depuis plus d'une quinzaine d'années dans cet objectif-là, pour que ça soit un métier encadré, pour limiter aussi les pratiques qui partiraient dans tous les sens et afin de rassurer tout le monde, parce que c'est un métier qui n'est absolument pas médical et qui ne vient pas en, marcher sur les plates-bandes, mais c'est ça qui ne marche sur les plates-bandes de personnes. Par exemple, on sent une grande complémentarité avec les sages-femmes, on est complètement dans le soutien de leur lutte et des difficultés qu'elles rencontrent en ce moment et pas que en ce moment. Et donc voilà, Doula de France fait un gros travail dans ce sens-là et j'ai envie d'être optimiste et de me dire que y a pas de raison. Hein. Les mentalités changent et l'humain prend de plus en plus de place dans la vie des gens, du moins la reconnaissance de l'importance de l'humain. Donc, je suis optimiste.
C'est vrai que j'avais noté que ce soit la Maison des maternelles ou encore dans d'autres revues, c'était Cosette, Mademoiselle, différents articles qui avaient été consacrés aux doulas. Même de manière humoristique, que ce soit dans les petites séquences de Brout ou chez la youtubeuse Maman très spirituelle. Donc, il y a de plus en plus ce mot qui revient et de présentation de ce que peut être une doula et des services qu'elle peut apporter auprès de la femme, de la future, de la jeune maman et du couple. Et concernant le cadre, donc il n'y a pas de fiche métier. Tu as parlé de Doula de France qui, pour nous, est une référence parce qu'il y a quand même un énorme travail de la part des bénévoles de l'association des Doulas de France à reprendre, que ce soit les articles scientifiques, que ce soit justement la revue de presse. Mais il y a aussi eu un gros travail qui est de la rédaction de la charte pour les doulas. On peut la retrouver sur leur site internet. Il y a aussi un annuaire chez Doula de France qui est intéressant pour les personnes qui sont en recherche pour cette visibilité-là. Alors, il y a d'autres annuaires, hein, je les mettrai sur le site internet. Il y a aussi des groupes Facebook qui permettent de rechercher les doulas en France. Au niveau légal, c'est important aussi de faire la différence entre le métier de la profession de sage-femme, qui elle est par contre une profession médicale réglementée, et le métier de doula. Donc les sages-femmes interviennent auprès des femmes et des nouveau-nés en bonne santé, aussi pour le suivi gynécologique, tout au long de la vie d'ailleurs, la contraception, grossesse, échographie, accouchement, prescription médicale, les interruptions médicamenteuses, vaccination et aide à l'allaitement. Et c'est vrai que le métier de doula, pour faire court, nous avons peut-être tendance à dire qu'il y a un accompagnement donc dans la continuité. Il y a tout ce travail de donner des informations quand la maman a envie, en a besoin et lui permettre de trouver toutes ces informations, de lui apporter un soutien émotionnel et aussi pratique et physique. Donc ces petits moments où nous sommes attentives,
à ce qu'elle pourra avoir besoin. J'ai une image comme ça d'aller rencontrer, d'aller chez la personne qui est dans son fauteuil, qui allaite, et de repérer qu'il manque le verre d'eau ou bien le petit gâteau qui ferait que ça ferait du bien à certains moments qu'elle puisse se requinquer. Donc il y a une différence donc, vraiment à faire entre les deux métiers. D'une part, de par le lieu géographique, le cabinet et à la maison, et puis cette fameuse posture aussi de se rendre disponible à la personne dans ce qu'elle vit au quotidien, ce qu'elle a besoin et ce qu'elle cherche aussi, et d'être en soutien dans ses questionnements, dans ses choix et peut-être dans son processus de remise en question ou de se trouver en tant que nouvelle maman dans cette nouvelle configuration familiale d'adaptation avec son petit, et elle en tant que maman, on parle de matrescence aussi.
Je trouve ça très juste que tu soulignes la différence géographique puisque les sages-femmes comme les autres professionnels de santé reçoivent à leur cabinet. Donc ce sont les parents, les femmes qui se déplacent et donc qui sortent de leur lieu personnel, de leur cocon, pour aller rencontrer le professionnel. Alors que la doula, la plupart du temps, va intervenir au domicile de ses clientes. Et pour moi, la différence, elle est énorme dans le sens que quand je vais au domicile de mes clientes, elles m'ouvrent une partie de leur intimité, dans la limite de ce qu'elles veulent bien, c'est sûr. Mais moi, je sors aussi de ma zone de confort. Je vais aller faire la route jusqu'à chez elle avec parfois la neige, les intempéries, peu importe. Mais c'est moi qui offre ça. Et elles, finalement, n'ont rien d'autre à faire que de m'attendre tranquille dans leur canapé. Il n'y a pas de logistique de s'habiller, d'être prête à telle heure, de gérer les horaires d'école ou peu importe. C'est moi qui vais me rendre disponible déjà sur le créneau qui leur convient le mieux. Et en plus, dans le lieu qui, a priori, va être le plus cocon et le plus rassurant pour elles aussi.
Ça peut être chez elle, et puis il y a aussi cette volonté de se rendre disponible pour des examens à l'extérieur, un rendez-vous à l'extérieur si l'autre parent ne peut pas être disponible parce que c'est un moment particulier. Il y a aussi pas mal de doulas qui se proposent d'accompagner la maman, les parents dans ces moments où ça peut être bon aussi d'avoir un temps de débrief après la consultation ou après tel rendez-vous, dire émotionnellement j'ai traversé ça. Comment, même si je me parle à moi-même, mais d'être en présence de quelqu'un sous forme de témoin, dire ah ben il y a telle image ou l'échographie, j'avais un peu d'appréhension de voir bébé et puis le bruit qui m'a impressionnée. Ouais. Il y a aussi ces temps-là importants et ces temps aussi entre la porte qui peuvent être il y a les temps de rencontre à domicile avec la personne, ces temps de trajet et puis les temps entre deux portes où finalement il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu utilises beaucoup ce mot-là et je le reprends, mais ce côté subtil ou petit détail ou mine de rien où émotionnellement il se passe plein de choses, ouais. On peut se confier, et c'est là où il y a aussi un lien de complicité, je sais pas, mais se dire on se comprend, on se voit, je suis témoin, et il y a vraiment une bonne dose d'empathie à ce moment-là.
Un lien de proximité, ça je crois qu'on peut le dire. Et oui, comme tu le soulignes, chaque espace va être propice à des échanges différents. Et c'est rigolo, c'est toujours rigolo pour moi de constater à quel point, quelle que soit la durée, quel que soit le temps du rendez-vous, il y a certaines petites phrases échangées. Et je pense notamment aux coparents, c'est quelque chose qui se produit très souvent avec les papas. Il y a des phrases qui sortent juste devant la porte au moment de me raccompagner au parking, s'il y a eu une histoire de code pour sortir de la résidence ou peu importe. Parce qu'il y a un espace différent, un mouvement différent. Justement, là, il va y avoir un mouvement où on va marcher côte à côte et ça autorise une autre forme d'intimité. Il y a des choses qui vont s'autoriser plus facilement et pour certaines personnes, sur un canapé, cocooning, bien enfoncé. Parfois, au contraire, c'est le fait de ne pas se regarder directement dans les yeux, de marcher à côté de quelqu'un, de pouvoir glisser les choses discrètement et être écouté quand même. Et parfois, faire une pause devant la voiture et prolonger juste de 5 minutes pour des choses qui n'avaient pas pu être dites confortablement dans le canapé.
Et toi, c'est qui ta doula ? Et voici le témoignage de Delphine, qui nous raconte son accompagnement par une doula lors de sa seconde grossesse.
Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 42 ans. Je suis la maman de deux filles, deux petites filles, une qui a 8 ans et sa petite sœur qui a 6 mois. Durant ma première grossesse, je ne connaissais pas du tout les doulas et leur accompagnement. Et j'ai découvert, je les ai découverts quand ma grande était encore bébé. Et c'est vrai que je me suis dit, ah ben tiens, ça aurait été utile durant ma grossesse. Et je me suis dit, bah tiens, si un jour j'ai une deuxième grossesse, pourquoi pas. Et puis la deuxième grossesse est arrivée, 7 ans et demi après, de manière très inattendue et très heureuse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais presque 41 ans. Et je me suis dit, c'est très inattendu, j'ai besoin d'échanger avec quelqu'un à ce sujet-là. C'est vrai que le papa, lui, il n'était pas hyper enthousiaste non plus parce que on y croyait plus, en fait. On avait fait notre deuil et j'ai ressenti vraiment le besoin d'échanger, d'avoir un accompagnement. Et pas avec une amie, pas avec quelqu'un de la famille et encore moins avec un professionnel du secteur médical. Et donc, du coup, j'ai tout naturellement pensé à une doula. Donc, il se trouvait que j'en connaissais une, donc j'ai fait appel à elle et on a pu échanger à ce propos. Lors de notre premier entretien, on a beaucoup parlé de ma première grossesse, de ce que j'avais vécu. Et c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, je m'étais toujours entendu dire que c'était une grossesse qui s'était bien passée, qui était dans la joie. Et en fait, à force de, tout en racontant comment ça s'était passé, je me suis rendu compte que finalement, en fait, c'était une grossesse qui s'était passée beaucoup sous le stress, sous les inquiétudes, sous l'angoisse. C'était une grossesse qui était très attendue depuis de nombreuses années. Et finalement, en échangeant avec elle, avec ma doula, je me suis rendu compte que ça c'était pas du tout comme je pouvais le retranscrire jusqu'alors. Et finalement, ce premier entretien est venu un petit peu nourrir et travailler tout ce ressentiment-là. Et finalement, ça a permis de réparer ce vécu-là pour permettre d'entamer cette nouvelle grossesse de manière un peu plus sereine et de l'appréhender en tout cas avec plus de sérénité. L'une des questions que je me suis posée et où j'ai eu besoin d'échanger avec ma doula, c'était quand et comment annoncer cette grossesse à la future grande sœur. C'est vrai que je voulais pas lui annoncer trop tôt et en même temps j'avais très envie d'échanger ça avec elle. J'avais pas envie de lui mentir ni de lui cacher des choses et étant donné son âge, qu'elle avait 7 ans, j'avais quand même envie de partager ça rapidement avec elle. Et ma doula m'a permis de découvrir plusieurs pistes et plusieurs façons de l'annoncer tout en la préservant, parce qu'on était quand même assez tôt dans la grossesse. Et finalement, j'ai pu le faire grâce à cet accompagnement de manière tout à fait adaptée et sereine avec ma grande. En fait, finalement, l'accompagnement avec la doula, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Et ce qu'il y a de vraiment super, c'est que finalement, c'est pas une amie, c'est pas quelqu'un de sa famille, c'est pas quelqu'un qui fait partie du secteur médical, mais c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet de la grossesse et des femmes. Et ça permet d'échanger en toute sérénité, sans avoir peur du jugement, sans qu'on nous dise exactement ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Ça nous permet juste d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, qui connaît bien ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, qui va nous permettre d'avoir confiance en nous et qui va nous guider aussi dans les choix qu'on a à faire autour de cette grossesse et de l'accouchement ou de l'allaitement, sans nous imposer la façon de voir les choses. C'est un suivi, un accompagnement qui a été complètement libre. J'ai pu faire appel à ma doula quand j'en avais besoin et pas de manière imposée. C'est pas elle qui me disait, écoute, on se voit là, on se voit là, on se voit là. Non, c'était moi qui lui disais, là, aujourd'hui, j'ai besoin qu'on se voit, quand est-ce que tu es disponible, parce que c'était vraiment à mon rythme et selon mes besoins. Ça m'a permis, par exemple, quand j'ai eu des soucis avec ma gynéco, parce que il y a eu une écho qui s'est pas bien passée vis-à-vis de la professionnelle, hein, au niveau de la grossesse, j'ai pu lui dire, à ce moment-là, là, j'ai besoin d'échanger avec toi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, j'ai besoin de partager ce moment-là avec toi, est-ce que tu es disponible ? De la même manière, j'ai pu aussi la contacter pour toutes les belles nouvelles, quand on a connu le sexe du bébé. Et toutes les joies de la grossesse, finalement. Ma doula, elle a été présente à chaque étape de ma grossesse. Elle a aussi été présente au moment de l'accouchement, puisque je l'ai contactée. Enfin, je lui ai envoyé un message quand je partais à la maternité, au milieu de la nuit. Et puis, ensuite, quand j'étais à la maternité, j'ai eu besoin d'elle aussi, de son accompagnement, de son écoute pour la mise en place de l'allaitement, qui a pris son petit temps aussi. Et ça m'a permis aussi d'avoir une aide et un soutien vis-à-vis de l'équipe aussi de la maternité qui n'allait pas dans le sens où moi j'avais envie d'aller pour cet allaitement. Et donc ça m'a encore une fois permis d'avoir confiance en moi et d'aller là où je voulais. Et finalement, là aujourd'hui, ma fille elle a 6 mois et on arrête l'allaitement. Là, on est en train de l'arrêter, mais ça a pu se passer comme j'avais envie que ça se passe.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, cet accompagnement ?
Avoir une doula, ça m'a permis de vivre ma grossesse de la manière dont j'avais envie, d'être actrice de cette grossesse, de mon accouchement. Ça m'a permis d'être sereine et de vivre ce moment qui est quand même unique dans la vie, de la meilleure manière qui soit, en faisant mes propres choix de manière éclairée et accompagnée. Moi, j'ai envie de dire que finalement, cet accompagnement avec une doula, ça m'a permis d'avoir une grossesse et un démarrage dans la vie avec une deuxième fille de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus paisible. Ça a permis de répondre à des questions sans jugement et sans injonction non plus. Donc c'est vraiment un accompagnement que je ne regrette pas et que je recommande à toutes les femmes qui s'interrogent, qui ont envie de vivre leur grossesse dans la sérénité. Je le recommande aussi aux papas qui ont envie de le vivre. C'est vrai que mon mari n'a pas souhaité avoir cet accompagnement-là. Je pense que ça aurait été pour la première grossesse, à mon avis, il y serait allé. Bon, là, il n'en a pas ressenti le besoin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de papas pour qui ça peut être aussi utile. Et voilà, donc un grand merci aux doulas de France et aux doulas en général d'être présentes pour nous. C'est vraiment un super lien aussi qu'on peut avoir aussi par la suite. Donc un grand merci.
Alors pour cette émission, j'accueille ma collègue Amandine Lagarde qui est doula. Et nous avons abordé ensemble le métier de doula. Nous avons dit que c'était un métier de femme à femme. Nous avons beaucoup parlé de la maman, de la future maman. Toutefois, il y a aussi une place accordée à l'autre parent, éventuellement, si le besoin est là. Aussi la fratrie, la personne qui est importante dans la famille, dans la constellation, dans la tribu, dans la maison. C'est un grand-parent qui est là et qui est aussi bouleversé par ces changements familiaux. Et il y a aussi cette possibilité-là de pouvoir être à l'écoute.
Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien dire que c'est un accompagnement des femmes, mais des femmes, des couples et des familles. Parce que j'invite les coparents, les papas, s'ils le souhaitent, à prendre toute leur place aussi là-dedans et à utiliser cet espace de la manière qui est juste pour eux. Et puis, quand il y a des enfants, moi, j'adore quand il y a des enfants qui sont présents au rendez-vous parce qu'ils peuvent eux aussi poser des questions. Ils apprécient la plupart du temps quand ils sont un petit peu grands. Quand ils sont petits, ils apprécient que je joue avec eux et qu'ils puissent être intégrés à toutes ces discussions qui se passent autour de l'arrivée de leur petit frère ou de leur petite sœur. Et quand ils sont plus grands, ils ont bien souvent eux aussi des questions. Qu'est-ce que c'est ton métier? Pourquoi t'es venue voir ma maman? Moi, ça me permet aussi de leur en poser certaines. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu penses de ce gros ventre? Et c'est super chouette de les écouter eux aussi.
C'est des temps assez longs, en fait, par rapport à d'autres professionnels qui proposent des temps restreints. Bien souvent, les doulas proposent deux bonnes heures à domicile. Oui. Il y a aussi cette disponibilité-là par rapport à ce qui doit être dit, dans l'élan de ce qui a besoin d'être dit aussi. Ouais. Et là, on fait un focus autour de la grossesse, mais comme nous avons pu dire dans l'introduction en nous présentant, ça peut être pour d'autres moments de vie. On périnatalité, mais ça peut être pour... j'ai envie de dire les petits et les grands deuils sans qu'il y ait de critères de qualité ou... par rapport à une personne, par rapport à une interruption de grossesse, par rapport aussi à un grand changement de vie professionnel. Si on sent qu'émotionnellement, ça peut être bouleversant, il peut y avoir aussi ce recours-là auprès de la doula.
Oui, complètement. Tu cites un changement professionnel, ça peut être un changement personnel aussi, une séparation ou autre, un changement de lieu géographique, une arrivée dans un nouvel endroit, un projet familial, quel que soit. Moi, j'ai envie de dire que si cette personne ressent ce besoin d'être écoutée et de bénéficier de cet espace-là, bah, c'est sûrement que c'est le moment et c'est sûrement que ça sera ajusté pour elle. Après, est-ce qu'il y aura un rendez-vous, deux rendez-vous, dix rendez-vous ? Ça dépendra de la situation. Mais que chacun, chacune se sente libre de se dire que si elle ressent ce besoin, bah, c'est qu'elle y a droit.
Oui, c'est ajustable au niveau des rendez-vous. Il y a des compteurs là qui proposent des forfaits pour un certain nombre d'accompagnements, encore que ça peut s'adapter en fonction du besoin. Bien souvent, c'est une dizaine de rendez-vous, de rencontres dans le cas d'un accompagnement autour de la grossesse, avant et après l'accouchement. Et puis, ça peut être complètement à la carte. Hein. On peut voir sur les sites des unes et des autres une mise sur mesure en fonction des besoins de la cliente.
Oui, c'est très important, selon moi, que ça reste du sur-mesure. Et qu'en tant que doula, on ne s'enferme pas dans des visions idéalistes de la continuité, parce que c'est effectivement une des choses qui a motivé peut-être beaucoup de doulas au début, et que je trouve encore aujourd'hui très très motivant de pouvoir dire qu'il y ait cette personne ressource du début de la grossesse ou même du avant-grossesse jusqu'à la période postnatale, hein, parce que beaucoup de parents, beaucoup de femmes sont confrontées à ce grand choc à la sortie de la maternité, où après avoir été hyper entourée médicalement pendant des mois, bah, elles se retrouvent un peu en tête à tête avec leur bébé, avec leurs milliards de questions. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et pour autant, je n'ai pas envie d'en faire un dogme, et j'ai envie que les parents puissent rester libres de ne pas faire appel à une doula pendant la grossesse, ni pour le moment de la naissance, et pouvoir après en post-natal dire « Ah bah finalement, c'est pour maintenant, j'aimerais bien en contacter une », et puis voilà, c'est pas... C'est pas trop tard et c'est jamais le mauvais moment.
Oui, il n'y a pas de protocole pour se mettre en contact avec une doula. C'est pas à partir de tel moment de la vie. Ça peut être à tout moment quand le besoin se fait ressentir.
Tout à fait.
C'est libre, et puis c'est important aussi de passer un certain temps au moment du premier contact avec la doula. Déjà, d'avoir peut-être des informations. Les doulas sont généralement généreuses, que ce soit sur le site internet ou sur le compte Facebook, Instagram. Déjà, on peut voir leur personnalité. Hein. Il y a vraiment cette notion de feeling qui peut être importante, de voir si la doula nous correspond. Et puis de pouvoir lui expliquer, et la doula bien s'assurer de quelle place elle va pouvoir prendre auprès de la personne. Ce premier temps officieux, avant la première rencontre, peut être important.
Oui, tout à fait. Moi, quand je suis contactée par mail, par exemple, ou par SMS, je propose systématiquement un rendez-vous téléphonique avant notre première rencontre pour faire un petit peu connaissance et pour justement avoir la possibilité de dire à cette personne que le feeling est important, et du coup prendre un petit temps d'échanger pendant une petite demi-heure, voir quels sont les besoins, voir si je peux bien effectivement répondre à ces besoins ou si ce sont des choses qui relèvent. Et puis après, en conclusion, dire si vous avez toujours envie de prendre rendez-vous, on peut fixer rendez-vous à tel moment, en les encourageant aussi à rencontrer d'autres si c'est possible.
Je serais déjà plus là depuis un bail, je serais plié comme de la ferraille s'il n'y avait pas mes frangines. Je me serais déjà paumé 200 fois entre un vieux bar chez moi s'il n'y avait pas mes frangines. Je serais aux alcooliques anonymes, j'aurais fini comme James Dean sans mes frangines. Le temps salope les amours, les enterre tour à tour, mais il reste toujours mes frangines. Tout au fond du trou, au fond quand on voit plus le bout, s'il n'y avait pas mes frangines. Elle me ramasse si je flanche, elle me redresse quand ça penche, c'est comme ça mes frangines. alcooliques anonymes, j'aurais fini comme James Dean. Sans mes frangines, le temps salope les amours, les enterre tour à tour. Mais il reste toujours mes frangines. Je respire à demi-mot, je me fous dans les bras de mes frangines. Je serai aux alcooliques anonymes, j'aurais fini comme James Dean. Sans mes frangines, le temps salope, les amours les enterre tour à tour. Mais il reste toujours les frangines. Dans salope, les amours les enterrent tour à tour. Mais il reste toujours mes frangines. Mes frangines. Mes frangines.
Rose, les frangines. Pour cette émission, et toi, c'est qui ta doula ? Je suis avec ma collègue Amandine Lagarde, doula sur le plateau Ardéchois et Haute-Loire. Amandine, en France, il y a beaucoup de doulas ?
Alors, c'est assez difficile de donner le chiffre du nombre de doulas en France. Sur l'annuaire doula de France, il doit y en avoir, je crois, une centaine. Je ne l'ai pas vérifié. Il faut savoir que pour figurer sur l'annuaire doula de France, il faut avoir validé le cursus défini par l'association qui permet de couvrir un certain nombre d'heures de formation en vue de la reconnaissance du métier, etc. Pas toutes les doulas souhaitent suivre ce cursus-là, enfin souhaitent compléter ce nombre d'heures-là de cette manière-là. Il y a aussi des doulas qui pourraient y figurer, mais pour une raison ou une autre. Donc c'est assez difficile de recenser combien il y a en réalité de doulas en France. J'imagine au moins 200, mais peut-être que... Et en Haute-Loire, on est une petite dizaine, il me semble.
Cette idée de créer un collectif, en tout cas de se rencontrer, il y a déjà eu une première rencontre, il y en aura une autre qui va être proposée au courant 2022 et j'invite parmi les auditrices doula peut-être de se manifester pour que nous puissions vraiment faire connaissance et voir comment nous nous répartissons sur l'ensemble du territoire et offrir une meilleure visibilité aussi aux femmes qui sont. Et en fonction de le secteur géographique, des services proposés, on a chacune nos spécialités. Et alors cette fameuse question de feeling.
Ouais, tout à fait.
Il y a aussi une question qui peut être importante, c'est la notion du coût. C'est un service qui n'est pas, c'est un service à la personne, mais qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc c'est
normal puisque ce n'est pas médical.
Oui. Et les tarifs, généralement, peuvent varier. Ce qu'on avait noté... Alors, à savoir que les doulas peuvent se faire rémunérer directement par la personne si elles sont au statut d'auto-entrepreneuse. Et puis, il y a aussi la formule sous forme de saisie du chèque emploi-service.
Oui, exactement. Le métier de doula, puisqu'il s'exerce au domicile de la personne, peut rentrer dans le cadre de la rémunération par saisie qui est avantageuse pour les personnes, donc pour les femmes ou pour les couples, et avantageuse aussi pour la doula in fine. Mais bon, ce qui est important à souligner peut-être, c'est que c'est avantageux pour les familles d'avoir recours à ça, surtout que là, à partir de janvier 2022, le crédit d'impôt qui était accordé avant l'année suivante, là maintenant, il est accordé immédiatement. On peut donner une fourchette,
oui.
Peut-être. Donc, énormément de doulas prévoient des rencontres de 1h30 à 2h donc au domicile. Et les tarifs, ils peuvent varier de 50 euros la rencontre à dont 80 euros. Alors, c'est pas une fourchette qui est stricte, hein, mais la plupart des tarifs qu'on constate, c'est dans cet ordre-là, pour 1h30 à 2h de rencontre.
Avec aussi la possibilité, en fonction des choix des doulas, mais d'un forfait accouchement avec ou sans astreinte, et là aussi oui, avec un tarif spécifique.
Tout à fait. Et pareil, il va être variable d'une doula à l'autre, alors c'est difficile de...
Nous avons parlé donc de l'accompagnement dans la continuité. Il y a aussi d'autres services qui peuvent être proposés par la doula. Nous l'avons déjà un peu évoqué, et encore une fois, on ira un peu plus dans les détails dans une autre émission. Mais il me semble aussi important de dire que... alors, il peut y avoir des formations sur les massages, le portage... Il y a aussi ces temps de bien-être, de chouchoutage avec le soin Rebozo. Et il peut y avoir des temps de rencontre en fait collective. C'est important en tant que jeune maman ou future maman de pouvoir avoir son espace refuge avec sa doula. Et puis pouvoir aussi partager avec d'autres mamans, même si ça se fait, il y a d'autres institutions qui le proposent aussi, ces temps de rencontre. Mais il y a des doulas qui peuvent proposer des temps de partage, de libération de la parole ou de transmission, d'inspiration, les inodos. Donc, on avait parlé notamment des tentes rouges. Ça peut être un espace où on peut se dire « Ah ben, je ne suis pas toute seule, en fait, à vivre ça » et trouver une histoire commune, des points communs et de se sentir peut-être rassurée dans ce que les unes et les autres pas complètement éloignées de ce qu'on peut vivre au quotidien.
Ouais. Et finalement, on retrouve l'essence de la doula qui est... lors de rencontres individuelles dans la facilitation de la parole et qui va avoir ce même rôle au sein d'un groupe de femmes ou d'un groupe de parents, par exemple dans le cadre de Café Parents pour des parents de bébés ou de jeunes enfants, qui va être là juste presque de façon extérieure pour faciliter la parole entre les personnes présentes sans prendre de place ou du moins en restant à sa juste place. Et là, on est vraiment dans la même posture que ce soit en individuel ou en groupe.
Au oui, final. Cette posture de... neutralité, en tout cas de bienveillance, de non-jugement, aussi de non-conseil. Ça peut être perturbant, hein, parce qu'il y a plusieurs fois des personnes qui peuvent me dire « Ah toi, Maïté, en tant que doula, tu t'y connais, qu'est-ce que tu penses de ceci, quel conseil tu donnerais pour ça, mon bébé est mal positionné, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors oui, de donner des informations, documentées, référencées, des conseils, ça ne sera pas notre job pour le coup.
Oui, tout à fait. C'est, la nuance entre les deux est hyper importante à mon sens, parce que donner un conseil, ça sous-entendrait qu'on sait mieux que la personne en face de nous ce qui est bon pour elle. Et ça, c'est complètement l'opposé de l'éthique d'une doula. Moi, on me demande très très souvent, puisque je suis mère et que je ne cache pas à mes clientes, mais toi, comment t'as fait cadre de la rémunération par CESU qui est avantageuse pour les personnes, donc pour les femmes ou pour les couples, et avantageuse aussi pour la doula in fine. Mais bon, ce qui est important à souligner peut-être, c'est que c'est avantageux pour les familles d'avoir recours à ça, surtout que là, à partir de janvier 2022, le crédit d'impôt qui était accordé avant l'année suivante, là maintenant, il est accordé immédiatement. On peut donner une fourchette, oui. Peut-être. Donc, énormément de doulas prévoient des rencontres de 1h30 à 2h donc au domicile. Et les tarifs, ils peuvent varier de 50 euros la rencontre à donc 80 euros. Alors, c'est pas une fourchette qui est stricte, hein, mais la plupart des tarifs qu'on constate, c'est dans cet ordre-là, pour 1h30 à 2h de rencontre.
Avec aussi la possibilité, en fonction des choix des doulas, mais d'un forfait accouchement avec ou sans astreinte, et là aussi oui, avec un tarif spécifique.
Tout à fait. Et pareil, il va être variable d'une doula à l'autre, alors c'est difficile de...
Nous avons parlé donc de l'accompagnement dans la continuité. Il y a aussi d'autres services qui peuvent être proposés par la doula. Nous l'avons déjà un peu évoqué, et encore une fois, on ira un peu plus dans les détails dans une autre émission. Mais il me semble aussi important de dire que... alors, il peut y avoir des formations sur les massages, le portage. Il y a aussi ces temps de bien-être, de chouchoutage avec le soin Rebozo. Et il peut y avoir des temps de rencontre en fait collective. c'est important en tant que jeune maman ou future maman de pouvoir avoir son espace refuge avec sa doula, et puis pouvoir aussi partager avec d'autres mamans, même si ça se fait, il y a d'autres institutions qui le proposent aussi, ces temps de rencontre, mais il y a des doulas qui peuvent proposer des temps de partage, de libération de la parole ou de transmission, d'inspiration, les inodos. Donc on avait parlé notamment des tentes rouges, ça peut être un espace où on peut se dire, ah ben, je ne suis pas toute seule en fait à vivre ça, et trouver une histoire commune, des points communs, et de se sentir peut-être rassurée dans ce que les unes et les autres, pas complètement éloignées de ce qu'on peut vivre au quotidien.
Ouais. Et finalement, on retrouve l'essence de la doula qui est lors de rencontres individuelles dans la facilitation de la parole, et qui va avoir ce même rôle au sein d'un groupe de femmes ou d'un groupe de parents, par exemple dans le cadre de Café Parents pour des parents de bébés ou de jeunes enfants, qui va être là juste presque de façon extérieure pour faciliter la parole entre les personnes présentes, sans prendre de place ou du moins en restant à sa juste place. Et là, on est vraiment dans la même posture, que ce soit en individuel ou en groupe.
Au oui, final. Cette posture de neutralité, en tout cas de bienveillance, de non-jugement, aussi de non-conseil. Ça peut être perturbant, hein, parce qu'il y a plusieurs fois des personnes qui peuvent me dire « Ah, toi, Maïté, en tant que doula, tu t'y connais, qu'est-ce que tu penses de ceci, quel conseil tu donnerais pour ça, mon bébé est mal positionné, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors oui, de donner des informations, documenter, référencer, des conseils, ça ne sera pas notre job pour le coup.
Ouais, tout à fait. C'est la nuance entre les deux est hyper importante à mon sens, parce que donner un conseil, ça sous-entendrait qu'on sait mieux que la personne en face de nous ce qui est bon pour elle, et ça c'est complètement l'opposé de l'éthique d'une doula. Moi, on me demande très très souvent, puisque je suis mère et que je ne cache pas à mes clientes, mais toi, comment t'as fait? Et alors là, toujours recentré, moi, peu importe ce que j'ai fait, ce que je peux te dire, c'est que certaines femmes font ce choix-là, d'autres font ce choix-là, d'autres. Mais toi, au milieu de tout ça, quel choix est-ce que tu aimerais faire pour ton bébé? Quel est ton choix à toi?
Oui, il y a cet espace d'écoute qui est proposé à la personne, mais plus que de l'écoute, c'est pas tant de permettre à la personne de déverser ce qu'elle a à déverser, même si parfois émotionnellement ça peut vraiment être le besoin à ce moment-là, c'est aussi de permettre à la personne de faire son chemin, de trouver ses propres repères, ses propres appuis, de se rendre compte de tout ce qu'elle a déjà capitalisé, de ce qu'elle sait, et de... Il y a aussi la notion d'empowerment, alors, de dire en français, de trouver son propre pouvoir. Alors, je me méfie toujours un peu de ce vocabulaire-là, parce qu'il peut y avoir aussi l'image de la femme sauvage qui reprend son pouvoir, et pourquoi pas, c'est pas de ça que je parle là tout de suite, mais de pouvoir permettre à la personne de dire, en tout cas, nous sommes dans une relation d'égal à égal.
D'horizontalité.
Ouais. Et de faire confiance à la cliente de ce qu'elle sait, de ce qu'elle va pouvoir trouver comme ressource pour elle-même.
Oui, notamment, on cite souvent dans ce que proposent les doulas, donner de l'information, et c'est tout à fait vrai, c'est une des choses, si je donne pas de conseils, au contraire, je donne très volontiers de l'information. Mais avant de donner les informations qu'on me demande, je m'assure toujours de savoir si ces personnes ne les ont pas déjà. Et si c'est le cas, et en réalité, c'est souvent le cas, je trouve que c'est beaucoup plus positif à court terme et à long terme pour ces personnes qui sont en phase de devenir parents, de prendre conscience qu'ils ont déjà tout en eux, qu'ils ont juste besoin de se pencher dessus, peut-être avec une présence en appui, pouvoir faire le plein de tout ce qu'ils ont lu, de tout ce qu'ils ont collecté, peut-être les aider un peu à le remettre dans l'ordre. Mais au final, ce qui restera à la fin de notre rendez-vous, c'est qu'ils savaient tout et c'est que c'est venu d'eux. Et ça, c'est, je trouve, un terreau super riche pour cultiver leur confiance en tant que parents, leur estime d'eux-mêmes. Et ça peut que les aider par la suite.
Oui, quand on est assailli de 36 000 doutes, quand il y a un moment de vulnérabilité, on peut se sentir dépassé par la situation parce que bébé pleure, parce qu'on pensait bien faire et qu'en fait, il n'y a rien qui fonctionne malgré tous les articles qu'on a pu lire sur bien prendre soin de son bébé ou de soi-même et puis que ça ne fonctionne pas. Mais n'empêche peut-être de se dire, si en fait j'ai les infos, Mais comme tu dis, remettre de l'ordre ou élaguer, d'essayer de faire le tri dans tout ce qu'on sait et de ne pas se laisser... enfin, pas se laisser, c'est pas une nouvelle injonction. Hein, c'est pas dans l'idée qu'il faut ne pas se laisser dépassaillir.
Mais disons que si à ce moment-là, ces parents-là peuvent avoir une petite voix qui leur dit « Ne t'inquiète pas, tu as déjà fait l'expérience plusieurs fois que tu étais la mieux placée, le mieux placé pour savoir. » Donc, pas de panique. Plutôt que si c'est une autre voix qui vient leur dire « Oh là là, mais vraiment, tu comprends rien du tout, tu ferais mieux d'aller demander à quelqu'un qui s'y connaît. » Bon, bah, le résultat, pas du tout le même. Et même si le quelqu'un qui s'y connaît, c'est la doula. L'autonomie des parents, pour moi, c'est aussi quelque chose d'hyper important et qui doit rester central.
Alors, quand je parle du métier de doula, il y a quand même pas mal de représentations encore sur ce que nous pouvons proposer. Et je peux entendre que les doulas, ce serait plutôt pour les personnes qui sont pro-allaitement ou pro-accouchement naturel, etc. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les personnes qui n'ont pas spécialement une affinité avec ces côtés-là et qui, par exemple, pour une maman, souhaiteraient... accoucher sous péridurale ou via une césarienne programmée.
Le principe de base du positionnement de la doula, c'est justement de s'adapter aux besoins des femmes, quels qu'ils soient. Ça veut dire qu'une mère qui a choisi d'accoucher sous péridurale ou avec une césarienne programmée, le rôle de la doula, ça va être de la soutenir dans ce choix-là. Peut-être comme une femme qui aurait fait le choix d'un accouchement sans péridurale ou à la maison, l'aider à cheminer vis-à-vis de sa propre envie, s'assurer que c'est bien ça qui est juste pour elle, mais sans aucune intention directe, sans aucune intention, quelle qu'elle soit, de la faire aller vers autre chose, de la même manière qu'une femme qui a choisi d'accoucher sans péri, on ne va pas essayer de l'influencer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se rattache à la neutralité. Il n'y a pas de bienveillance s'il n'y a pas de neutralité. Donc, la doula peut accompagner... voilà, n'importe quelle famille, quelles que soient leurs envies, leurs besoins, leur vision, leur philosophie de la naissance.
Il y a aussi cette notion de projet de naissance, projet d'accouchement. Pour moi, il me semble important, tout au long de l'accompagnement et de ces temps partagés avec la maman et l'enfant, d'être à l'écoute de ce qu'elle souhaite, peut-être de ce qu'elle projette, peut-être dans ses utopies aussi, et de ne pas non plus tomber dans une forme d'idéalisation, mais par contre de lui permettre d'y réfléchir. Et ce que je veux dire aussi, c'est de ne pas s'arrêter à l'accouchement et puis c'est tout, et même pas juste au mois, parce que maintenant il y a un engouement par rapport au mois d'or, mais qu'en fait ça dure encore.
Oui, que être une continuité. Après, pour rebondir sur ce cliché dont tu parlais tout à l'heure, que les doulas seraient plus pour les femmes qui choisissent telle ou telle, qui ont telle ou telle envie pour l'accouchement, c'est vrai que quand je regarde ma clientèle, il y a quand même une prédominance des femmes qui ont cette envie-là. Et en fait, ça s'explique très simplement par le fait que les doulas n'étant pas encore complètement visibles pour le grand public, souvent, ces femmes-là, c'est celles qui se sont posées le plus de questions, qui sont allées lire certains bouquins, et dans ces bouquins-là, il y a des questions de doula ou qui sont allées sur certains groupes Facebook et qui ont reçu des témoignages de femmes qui ont... Donc ce biais est un de mes rôles parfois et quand même assez souvent pour les femmes pour qui leur manière d'accoucher est vraiment très importante, qui vont mettre beaucoup d'énergie à la préparation de leur projet de naissance, que ce soit la réussite avec des gros guillemets, parce que je ne suis pas convaincue par l'utilisation de ce terme pour ce moment-là de la vie. Mais bref, d'arriver à accoucher sans péridurale comme elles le veulent ou d'arriver à accoucher à la maison comme elles le veulent, que ça ne soit pas vu comme une ligne d'arrivée, mais plutôt comme un passage vers autre chose, une étape parmi d'autres. Parce que quoi qu'il arrive, il est difficile de garantir que ça se passera de telle ou telle manière et c'est surtout pas moi qui pourrais le faire. Donc voir ça comme une étape et ne pas oublier que derrière il y a une suite, il y a un bébé, il y a d'autres moments... Peut-être à prévoir ou à anticiper si cette femme en a envie, mais en tout cas laisser assez d'espace pour qu'elle puisse aussi se projeter dans l'après.
Pour cette émission, et toi, c'est qui ta doula ? Je suis avec ma collègue Amandine Lagarde, qui est aussi doula, et elle sur le plateau Ardéchois et en Haute-Loire. Amandine, comment ça se passe après le premier contact téléphonique bien souvent ? Comment se passe le premier rendez-vous et les rendez-vous d'après ? Et qu'est-ce que vous abordez ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors bah, concrètement, si le premier contact téléphonique aboutit sur un souhait de rendez-vous, bah, comme je l'ai déjà dit, c'est moi qui vais me déplacer au domicile de ce couple. Et puis, bah, souvent, on va me proposer ou une autre boisson chaude ou froide. Et souvent, je vais m'installer confortablement et je vais commencer par demander comment tu te sens. Et la plupart du temps, cette simple question va permettre déjà beaucoup de choses de se dérouler. Parce que bah, cette femme, si elle m'a contactée, c'est qu'elle avait déjà pressenti ce besoin, soit d'informations, soit très souvent d'être écoutée, de pouvoir faire le point de là où elle en est. Et c'est une question qui, en réalité, n'est pas posée si souvent que ça, de façon complètement neutre et ouverte. C'est-à-dire que moi, je ne m'attends pas à « oui, ça va super bien », je ne m'attends pas non plus à « ça va super mal », je m'attends à rien. L'espace complètement ouvert. Parfois, je pose cette question-là et puis après, je ne parle plus pendant trois quarts d'heure. Mais trois quarts d'heure réel, pour de vrai, c'est pas juste une expression. Et du coup, c'est à partir de tout ce que cette personne va pouvoir amener et déposer que moi, je vais pouvoir repérer un petit peu dans ma tête peut-être certains de ses besoins que je vais essayer de souligner, voir si je suis à côté de la plaque ou pas, parce que quoi qu'il arrive, je vais pas venir mettre sur elle ce que moi j'ai prévu puisque j'ai rien prévu. Mais par contre, en l'écoutant parler, je vais avoir des petites lumières qui vont s'allumer. Je vais dire, tiens, bah, elle a évoqué ça, peut-être qu'elle souhaiterait une information là-dessus. Donc, je vais m'assurer, est-ce que ce serait utile pour toi d'avoir un peu plus d'informations sur ce sujet? Peut-être que ça sera oui, peut-être que ça sera non. Peut-être qu'elle va me dire, ah bah oui, mais justement, j'ai acheté un bouquin, donc je vais le lire et puis après, on pourra en discuter. Enfin, c'est vraiment totalement libre, point à elle. Donc, très souvent, la première rencontre, ça va être ça. Et puis, les autres, ça peut être aussi du même ordre. Alors, il peut y avoir un besoin spécifique, il peut y avoir l'envie d'un massage, il peut y avoir une envie beaucoup plus pratique ou peut-être de marcher en allant se balader dans la forêt parce qu'elle en a un peu marre d'être enfermée seule chez elle. Ou alors, une demande particulière que j'emmène un livre qu'elle aura envie de m'emprunter pour le lire, etc. Mais toujours ajusté à ses besoins. Il y a certaines femmes qui aiment bien, quand elles me contactent pour fixer un deuxième, un troisième, un quatrième rendez-vous, dire « ah ben là, j'aimerais bien qu'on aborde tel et tel sujet ». Puis finalement, parfois on passe 2 heures dessus, elles passent 2 heures dessus, et parfois c'est balayé en 10 minutes. C'était juste quelque chose qui prenait beaucoup de place dans leur tête, mais qui en prend très peu après, une fois que c'est posé. Puis tout le reste du rendez-vous, ça va s'orienter sur quelque chose, mais qui n'a rien à voir. Le sujet, c'était peut-être la façon dont elles peuvent accompagner leur premier enfant à l'arrivée de ce deuxième bébé. Et puis ça, peut-être qu'en un quart d'heure, ça va être réglé. Puis ensuite, on va parler d'allaitement pendant 1h45.
Alors, évidemment, Doula, c'est pas non plus cette posture de coach, de donner des conseils, ni même de faire une analyse psychologisante. Il y a vraiment une attention particulière à l'écoute, ou cet espace où la personne peut faire part de là où elle en est, de ses doutes, mais aussi de ses... de ses réussites, de ses nobles échecs, etc. Et d'être plutôt en reformulation, en soutien, en accueil de ce qu'elle vit, avec cette place essentielle à l'écoute. Et c'est vrai qu'on pourrait entendre dire ben, « ça coûte bien cher pour un espace d'écoute » et en même temps, ça a toute sa valeur.
Oui, ça, je suis vraiment dans les convaincus de la valeur de l'écoute. Donc juste pour préciser... pas coach, parce que en tant que doula, je n'ai jamais d'objectif de où je voudrais conduire mes clientes, puisque je ne veux les conduire nulle part, c'est elles qui vont où elles veulent. Et de la même manière, par rapport au côté thérapeutique, il n'y a jamais d'objectif de thérapie derrière l'écoute que je propose, même si, et c'est ça qui va donner toute sa valeur à cet espace-là, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas si souvent, et les personnes souvent prennent conscience que c'est en pouvant dérouler leurs paroles comme ça par elles-mêmes, aller dans la direction qui leur semble la meilleure à ce moment-là, avec surtout un grand temps, parce que des rencontres de 2 heures, c'est pas si courant non plus, ben finalement, il va y avoir des petites révélations qui se font, des petits tilts, des petites choses qui se connectent, mais c'est la personne qui est maîtresse de ça, et c'est dans son cœur, dans son corps, dans son esprit à elle que ça va se faire sans intervention de ma part, et ça peut aussi ne pas se produire. Disons que dans l'écoute, il n'y a pas d'objectif thérapeutique, mais être écouté pleinement dans la bienveillance, ça peut être thérapeutique, tout comme aller chez le coiffeur, se faire une jolie coupe et un petit brushing, ça peut être thérapeutique si c'est notre besoin. Voilà. Et des exemples de la magie de l'écoute, j'en ai tellement que ça continue à m'épater moi-même au bout de 10 ans. Et notamment, j'ai très très souvent constaté ce que j'appelle un peu l'effet doula, enfin un des effets doula, que parfois des clientes qui désespéraient de ne pas voir arriver leur bébé ont posé un dernier rendez-vous avant cette date où elles espéraient que leur bébé allait arriver. Rendez-vous qui pouvait être avec un moulage de ventre, avec un temps un peu plus cocooning, avec des bougies, avec des vœux faits pour la naissance ou peu importe. Et puis finalement, le lendemain, j'avais un petit SMS en disant « Ah bah voilà, ça y est, il est arrivé. » Alors que moi, en réalité, j'ai rien fait d'autre que d'ouvrir l'espace et leur permettre de déposer tout ça. Et l'exemple le plus flagrant que j'en ai, c'est une femme qui m'a contactée en toute fin de grossesse puisqu'elle était déjà en dépassement de terme. Ça faisait 2-3 jours déjà qu'elle était sous surveillance avec monitorier parce que le terme de la grossesse était déjà dépassé. Elle avait très, très peur du déclenchement. Au début, elle m'a contactée avec un objectif d'avoir des astuces pour pouvoir déclencher l'accouchement. Ce qui, donc naturellement, entre guillemets, ce qui bien sûr n'est pas du tout dans mes compétences. Donc, c'est posé. Par contre, on a pris un long temps d'échange téléphonique. Je crois que j'ai dû rester plus de 3/4 d'heure avec elle. Juste à écouter, où elle a pu donc expérimenter tout ça, dérouler là où elle en était, pourquoi, comment ce bébé, pourquoi, à quel point elle était très prête à le voir arriver, et puis finalement, peut-être pas tant que ça. Bref, il a été calé à un rendez-vous pour le lendemain matin où je devais aller la voir chez elle. Et finalement, elle a raccroché en me disant, ok, donc on se voit demain, donc en attendant... J'y pense plus, je mets ça de côté, on va attendre de se voir demain et puis de reposer tout ça tranquillement demain. Et le lendemain, pendant que j'étais dans ma voiture en train d'aller chez elle, j'ai reçu un petit SMS de son compagnon me disant que le travail actif était lancé et que le bébé avait l'air d'arriver très très vite. Donc finalement, j'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi et on s'est revus l'après-midi à la maternité où elle avait accueilli son bébé. Et là vraiment, simplement à distance... par téléphone, alors que moi je suis une grande partisane de la présence et de la proximité physique. Mais là pour le coup, rien que cette écoute a déjà pu permettre, je ne sais pas ce que ça a permis puisque finalement moi j'étais responsable de rien, c'est simplement cette femme qui a pu dérouler et venir là où elle avait besoin d'en venir, c'est-à-dire arriver à accueillir son bébé le lendemain.
Et je me dis pour les personnes qui sont dans un processus d'interruption de grossesse, où il peut y aussi y avoir des appréhensions, des doutes, des émotions qui font pas mal d'aller-retour. Peut-être que la doula sera pas présente parce que ça sera une autre personne ou une personne choisie d'y aller seule, mais de toujours avoir finalement sa doula en feedback peut être aussi très très soutenant, même si ça s'arrête dans quelques semaines, mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui a une pensée pour soi peut être aussi encourageant, en tout cas, de se dire « je ne suis pas toute seule et il y a quelqu'un qui vient border cet espace de sécurité, ou en tout cas réconfort. »
Oui, complètement. Tu as cité la situation d'une interruption volontaire de grossesse. Et moi, donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner ce genre de situation. Et du coup, de recevoir juste un petit SMS en disant « j'en suis là ». Je me prépare à partir de chez moi parce que j'ai rendez-vous à telle heure. Rendez-vous, du coup, c'était pas prévu que je l'accompagne. Mais, et puis moi, du coup, je vais répondre très, très brièvement par un petit smiley, par une petite pensée. Mais du coup, je suis avec elle en réalité pendant tout ce temps-là. Et ça, ce temps offert, cet espace offert, c'est pas seulement pendant les rencontres. C'est aussi entre deux, évidemment, de façon variable selon les situations. Mais ça peut être de façon très, très proximale, même à distance. Sur des journées ou des semaines ou des quelques jours d'affilée, il se passe quelque chose d'important et où ma présence, elle est utile.
Et pour élargir le spectre des situations, ça peut être aussi dans des parcours de procréation qui peuvent parfois être aussi assez bouleversants, déstabilisants. Ça peut parfois être le parcours de certaines familles. Des accidents de parcours aussi, voire des deuils. Ça peut être aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un changement de situation personnelle, professionnelle, il y a un temps de rencontre avec l'ex-conjoint ou avec l'ex-patron, les anciens collègues. Et ça peut être aussi ces temps-là où le fait d'appeler sa doula, qui est plus qu'une meilleure amie, qui est pas, encore une fois, le professionnel de santé, qui n'est pas non plus le psychologue, qui a vraiment une place particulière de par sa posture, permet de dire, et j'ai aussi cet espace-là où quelqu'un pense à moi, prend soin, peut prendre soin de moi, entre guillemets,
Et je crois qu'il y a un plaisir de la part des parents aussi, même si je ne cherche pas à en faire une généralité, mais de continuer à entretenir ce lien d'une façon ou d'une autre. Je reçois très souvent des petites photos pour l'anniversaire d'un bébé, quand j'ai été présente à la naissance ou pas. Mais voilà, il a un an, gros bisous, avec un petit montage. Et puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à rester présente, même de loin, voire de très très loin, mais à voir que ce lien, il a existé un jour. Il existera toujours d'une manière ou d'une autre, même si je suis plus la doula de cette famille-là. Mais d'ailleurs, les gens que je recroise même des années après me présentent toujours comme « Ah, Amandine, notre doula !» En réalité, ça fait des années qu'on n'a plus de rendez-vous et que l'accompagnement est terminé.
Il y a une façon de terminer un accompagnement. Comment tu clôtures? Est-ce que ça se clôture? Est-ce que tu clôtures?
Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien tout ce qui est symbolique. Donc, du coup, j'apprécie beaucoup de pouvoir marquer les choses symboliquement. Dans l'idéal, la dernière rencontre, moi, j'aime bien qu'elle soit prévue comme étant la dernière rencontre pour me permettre aussi de prévoir une petite attention, quelque chose de particulier, des gâteaux, un petit cadeau pour le bébé, peu importe quoi. Et puis, prendre un temps ensemble pour faire un retour sur ce parcours qu'on a partagé, poser une forme de bilan. Ça permet aussi finalement à cette femme ou à ce couple de faire un bilan sur eux-mêmes et peut-être de se rendre compte qu'ils ne s'attendaient pas à passer par tous ces chemins-là, qu'ils y sont passés, qu'ils en ressortent souvent plus forts, plus confiants, qu'il y a eu des difficultés ou pas. D'ailleurs, même quand il y a eu des difficultés et encore plus, la satisfaction de pouvoir se retourner sur son chemin et de voir tout ce qui a été. Et parfois, ce n'est pas prévu. Et puis, au fil de la rencontre, la personne et moi, on va prendre conscience que c'est sûrement la dernière fois. Et du coup, il y a quand même ce petit temps, ce petit temps à la fin pour revenir sur ça. Même si c'est bref, je trouve que c'est toujours fort, ces petits moments de clôture.
Nous voilà à la fin de cette émission. Merci Amandine pour ce partage, pour ce témoignage et pour venir éclairer ce qu'est une doula. À bientôt alors.
Merci beaucoup à toi Maïté pour l'invitation et puis à très bientôt parce que moi je te réécouterai à chaque autre épisode.
Merci. Et merci à l'équipe de FM43. Et pour aller plus loin, pour découvrir donc notre thématique, voici une petite sélection de livres. Si j'avais su, de Doula aux parents, de Aline Goss et Julia Bassis, aux éditions Le Être Myriadis, paru en 2020. Cœur de Doula, de Sandrine Lebrun, Philosphère, aussi édité en 2020. Et puis les podcasts d'Aurore Lebec sur doulalire.fr. Rappelons le site de Doula de France, doula.info, doula au pluriel, qui est une mine d'informations tant pour les parents que pour les doulas et les aspirants doulas. Et pour trouver votre doula, il y a un annuaire sur le site donc de Doula de France. Et puis, il y a d'autres annuaires dont le groupe Facebook « Trouver sa doula » annonce ses recherches. Pour retrouver les références de livres, de podcasts, les liens indiqués dans cette émission, rendez-vous sur le site de FM43 ou sur mon site commeeldit.com. Vous y retrouverez notamment mes activités comme doula. Nous nous retrouvons pour un prochain épisode sur la thématique de la grossesse. Et je cherche des témoignages de maman ou de papa sur leur vécu lors de la grossesse, des personnes ayant eu un parcours PMA ou un parcours de grossesse atypique. Contactez-moi via le site de FM43 ou sur mon site commeeldit.com. Ici ou là, avec joie de nous retrouver. Et voici la chanson de notre jingle de l'émission « Et toi, c'est qui ta doula ?» intitulée « Les ailes du vent » par Delphine Cam, à retrouver sur son album Onde et sur son site internet voixonde.com. Hey ya, hey ya, hey.
yare, yare.
Sur les sols du vent, au-dessus des vagues, dans les poussières de soleil couchant, amante de l'instant sauvage, je chante pour la nuit.
Elle fait un pas, elle s'avance, elle me dit au revoir. Je pourrais encore, je pense, lui dire à plus tard. Si elle se rendait à l'évidence que tout nous sépare, qu'il ne faut pas me faire confiance, que je n'ai rien à voir avec ses belles espérances, ni maintenant ni plus tard. Mais je pourrais encore, je pense, lui payer un coup à boire. Tout recommence. Rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu, c'est trop tard. Mais sur le pont de recouvrance, elle est si belle à voir que je pourrais encore, je pense, m'arrêter un jour de boire pour l'embrasser sans offense, sans migraine, sans cafard. Mais rien ne se passe comme je le pense quand l'envie me prend de boire. Tout recommence, mais rien ne se répare. Quand les cœurs sont en faïence, c'est foutu, c'est trop tard. Pardonne-moi toutes mes offenses. sens. Pardonne-moi si je m'égare, je ne sais plus dans quel sens se trouvait le jambard. Mais rends-toi l'évidence que tout nous sépare, qu'il ne faut pas me faire confiance, que je n'ai rien à voir. Merde, c'est pas de chance, on n'a plus rien à boire. Moi je pensais qu'à recouvrance, ça fermait un peu plus tard. Moi je pensais qu'à recouvrance, on trouvait toujours à boire. Moi je pensais qu'à recouvrance, on trouvait toujours à boire. À boire. À boire. À boire. Mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu, c'est trop tard, tout recommence. Mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu, c'est trop tard, tout recommence. Mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu, c'est trop tard, tout recommence. Mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu, c'est trop tard, tout recommence.